Heinrich Bullinger. Heinrich Bullinger. 1504-1575. Un théologien complet. Je vais vous parler d'une figure dans l'histoire de la Réformation presque entièrement tombée dans l'oubli. Même pour ce qui concerne sa ville de Zurich. D'un grand homme de Dieu dont nous célébrons cette année le 500e anniversaire de sa naissance. Mais à son époque, celle de la deuxième génération des réformateurs du XVIe siècle, il était universellement reconnu comme une personnalité de premier plan, de premier ordre, tant spirituellement et ecclésiastiquement que sur le plan politique. Je parle évidemment ici du successeur de Zwingli à Zurich, Heinrich Bullinger. Pendant 44 années, il exerça la fonction d'antistès, c'est-à-dire de premier pasteur et docteur de l'église du canton de Zurich, ceci depuis la mort de Zwingli sur le champ de bataille de Cappel en 1531, jusqu'à son propre départ de cette vallée de larmes en 1575. Né 5 ans avant Calvin, il le survécut de 11 ans. Comme le fit son plus jeune collègue à Genève, Bullinger laissa la marque profonde de ses labeurs, infatigable pour l'avancement du royaume de Dieu, non seulement sur la scène ecclésiastique et politique de son époque, mais sur l'héritage réformé qui, par la grâce de Dieu, est le nôtre aujourd'hui. Comme Calvin aussi, mais étrange à dire encore bien plus que le réformateur de Picardie, Bullinger, par son immense correspondance théologique et diplomatique, exerça une influence extraordinaire non seulement sur la Confédération helvétique, sa propre patrie, mais sur l'ensemble des pays de langue allemande, sur l'Europe de l'Est. Et nous avons ici une représentation de cette influence avec notre frère Arpad, qui vient de la partie hongroise affectée par l'œuvre de Bullinger en Roumanie, au XVIe siècle, en France, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne, ainsi que sur les destinées de la Grande-Bretagne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La correspondance de Calvin, qui s'étendit à travers toute l'Europe et qui joua un rôle si décisif sur le rayonnement de la foi évangélique renaissante, comprend quelques 4000 lettres. La correspondance de Bullinger, disponible dans les archives de Zurich, se chiffre à plus de 12 000 pièces. Et aujourd'hui, nous comptons quasiment 14 000 pièces. Ses œuvres publiées, excluant celles qui ont été éditées après sa mort, et les traductions, se chiffrent à pas moins de 119 titres. Comme très jeune homme, au début de la vingtaine, il devint le compagnon de Zwingli, jouissant de toute la confiance du grand réformateur. Mais plus tard, il gagnera l'amitié de Jean Calvin, et comme en témoigne largement leur correspondance, devint par moments un peu son père spirituel, encourageant, consolant, apaisant et modérant son plus jeune collègue dans le ministère. La question que nous soulevons maintenant, mais à laquelle nous n'offrirons pas de réponse, est celle de la quasi-complète disparition même du nom de Heinrich Bullinger de la conscience de nos contemporains suisses-allemands. Les volumes de sa correspondance et certains volumes de ses œuvres exégétiques et dogmatiques sont en voie de réédition en latin et en dialecte zurichois du XVIe siècle. Mais apparemment, aucun de ses ouvrages n'est disponible édité en allemand du XXe siècle ou du XXIe siècle en vue de l'édification de l'Église d'aujourd'hui. Rien de Bullinger, hormis la seconde confession helvétique, n'est disponible en édition anglaise ou française. Il semble qu'il n'y ait aucun projet en cours pour la réédition de ses œuvres dans ces deux langues. Cette situation est plutôt étrange si on la compare à celle de son plus jeune collègue, Jean Calvin, car Calvin est universellement reconnu comme une figure majeure de la Réforme et ses œuvres sont largement rééditées en de nombreuses langues. Mais son contemporain majeur, Heinrich Bullinger, est pour l'essentiel oublié, rarement réédité et lu par presque personne. Mais tel n'était point le point de vue de ses contemporains. Permettez-moi ici de citer brièvement un extrait d'une lettre adressée le 16 juin 1563, c'est-à-dire quelques mois avant sa mort, à Jean Calvin par Edmund Grindal, à l'époque évêque de Londres. Je cite « De tout cœur, je vous exprime ma peine de ce que vous, à votre âge et d'une carrure si frêle, ayez subi, comme Galasius me le fait savoir, une attaque de la goutte. Je n'ai aucun doute que vous ayez subi cette maladie en conséquence de vos études et de vos efforts excessifs. Il vous faut dorénavant réduire quelque peu vos labeurs précédents et vos réflexions excessives de crainte qu'en vous épargnant pas, vous fassiez croître votre maladie et deveniez moins utile à l'Église. Comme vous et Bullinger sont les seuls piliers principaux qui nous restent, nous souhaitons profiter de vous deux, s'il plaît à Dieu, aussi longtemps que possible. Fin de citation. Mais quelques mois plus tard, il plut à Dieu de retirer le réformateur de Genève, Jean Calvin, de la scène de ses grands travaux. Heinrich Bullinger, qui avait lui-même au printemps de 1564 subi la perte par la peste de son épouse et de plusieurs de ses enfants, lui-même échappant miraculeusement à cette infection pestilentielle, écrivait le 19 juin 1564 à Théodore de Bèze au sujet de la mort de son grand ami Jean Calvin, survenu le 27 mai. Je cite « Je ne peux pas te dire quelle douleur j'ai éprouvée lorsque j'ai appris que Calvin, ce frère vénéré, nous était enlevé. Je crains que Dieu, dans sa colère, nous ait adjugé cette horrible épreuve. En 3 ou 4 ans, Mélenchon, Vermigli, Musculus, Hyperius, Calvin nous sont enlevés. Tous de très grands hommes, par lesquels Dieu s'est surpassé en bienfaits, éminents et multiples. Je ne leur conteste pas le repos et la délivrance de ce monde immonde. Ils jouissent maintenant de la céleste pureté. De tous mes voeux, je souhaiterais que le Seigneur m'unisse bientôt à eux, s'il le voulait bien. » Un mois avant la mort de Calvin, Bullinger écrivait à son ami Fabricius à croire dans les Grisons « Aussi nous sommes dépouillés de quelques-uns des hommes les plus valeureux. Ne m'en voulez pas, je n'ai pas le cœur à écrire davantage. » Heinrich Bullinger, 1504-1575, un aperçu de sa vie. Essayons maintenant de rétablir brièvement le souvenir de la vie et des travaux de ce grand homme de Dieu. Nous suivrons dans quelques détails sa biographie jusqu'en 1531, puis nous passerons plus rapidement sur les années comme antistès de la ville de Zurich. Heinrich Bullinger est né le 18 juillet 1504 dans la petite ville de Bremgarten, aujourd'hui dans le canton d'Argovie, mais à l'époque sous l'administration conjointe de différents cantons de la Confédération. Chacun exerçait à tour de rôle le droit de gouverner cette région récemment entrée dans les limites d'une confédération en pleine expansion. Heinrich, le cadet de 5 garçons, avait pour père le doyen, c'est-à-dire le prêtre, du chapitre de Bremgarten, et pour mère Anna Wiederkehr, la fille d'un meunier prospère de la région. Une telle situation d'illégitimité conjugale ecclésiastique était assez courante à une époque où la nouveauté romaine du célibat obligatoire des prêtres n'était pas encore entrée dans les mœurs dans bien des régions des terres méridionales de l'Allemagne. La situation irrégulière des parents de Bullinger, quelque chose comme un mariage de droit commun rendu légitime par le paiement d'une amende modeste à l'évêque de Constance, conduisit à ce que les 5 garçons ont bénéficié d'une éducation et d'un héritage chrétien provenant de la vie pieuse d'une famille cléricale. Mais il faut aussi ajouter ici une note théologique. Cette situation familiale légalement illégitime, mais stable, nous permet de mieux saisir la compréhension que Bullinger pouvait avoir de la continuité réelle entre une tradition chrétienne locale, qu'il avait héritée et fait sienne, et celle de l'Église ancienne. Bullinger pouvait voir dans les circonstances inhabituelles de son éducation les traces d'un ordre orthodoxe plus ancien, qui n'avait pas encore été complètement effacé par les innovations hérétiques, ici le célibat obligatoire du mariage du clergé de la Rome apostate. Il n'est guère surprenant que Bullinger pouvait plus tard intituler un traité publié en 1541 « Der alte Glaube », la foi ancienne. Bullinger débuta son éducation de manière précoce. Il avait moins de 5 ans dans l'école latine de Bremgarten. À l'âge de 12 ans, son père envoya son jeune fils rejoindre son frère aîné à la célèbre école d'Emmerich dans le duché de Clèves, la frontière nord des Pays-Bas. Il reçut une éducation classique et humaniste très complète. Ayant profité de la discipline rigoureuse de cet établissement, Bullinger s'inscrivit à l'âge de 15 ans dans la célèbre université alors encore traditionnelle dans son enseignement de Cologne. En 1519, Bullinger s'inscrivit à la faculté des arts, dans le dessein explicite de se préparer à devenir un chartreux. Une année plus tard, en novembre 1520, il obtint son diplôme de bachelier, sa licence, à l'Université de Cologne. L'Université de Cologne contraste avec des institutions académiques de fondation plus récentes, telles l'Université de Bâle, ne se trouvait toujours sous l'influence de la méthode scolastique. Cependant, certains de ses professeurs avaient commencé à adopter les nouvelles méthodes des humanistes, avec leur insistance sur le retour aux sources premières du savoir, ad fontes. Ce vent nouveau incita Bullinger à la découverte des pères, et en particulier à une lecture attentive des sermons sur Matthieu de Chrysostome. Lecture qui lui montra à quel point leur réflexion était différente de celle de la méthode scolastique, telle qu'il pouvait la connaître à travers la lecture obligatoire d'un Lombard ou d'un Gratien. Il poursuivit son exploration des pères avec la découverte d'Ambroise, d'Augustin et de Jérôme, tout cela en brûlant la chandelle par les deux bouts, en plus de ses études officielles, terminées dans un temps record. C'est ainsi qu'en 1521, à l'âge de 17 ans, Bullinger acheta son premier Nouveau Testament, lisant tout d'abord l'Évangile selon Matthieu avec l'aide du commentaire de Jérôme. Cette découverte du texte même de l'Évangile fut pour lui une véritable révélation. À cette époque, il écrivait dans son journal « Alors enfin, j'abandonnais le projet de devenir chartreux et je commençais à éprouver tout entier l'horreur de la doctrine papistique. » Mais ce fut enfin par la lecture des « Loci communes » de Philippe Melanchthon, qui venait de sortir de presse en décembre 1521, que Bullinger en vint de manière claire et irrévocable à adhérer aux enseignements de la foi authentiquement évangélique. C'est dans les années 1521-1522, Bullinger n'avait que 18 ans. Il se plongea dans les écrits des Pères de l'Église dans une méditation passionnée avec celle des Écritures. C'est à cette époque qu'il écrivit dans son journal que « j'appris que le salut venait de Dieu par Christ ». Après une absence de 6 années, Bullinger en rentra à Bremgarten avec le titre de maître des arts de l'université prestigieuse de Cologne. Mais bien plus important était sa conversion à l'Évangile. Le 17 janvier 1523, l'abbé du monastère cistercien de la petite ville de Cappel, à cette époque sous l'administration de la ville de Zurich, offrit à ce jeune homme si exceptionnellement doué, il n'avait pas encore 19 ans, le poste de directeur de l'école monastique locale. Mais les convictions évangéliques de Bullinger étaient déjà assez claires et son caractère suffisamment trempé pour lui permettre de dicter ses propres conditions d'acceptation. Il affirma n'avoir l'intention de devenir ni moine ni prêtre, condition qui avait toujours accompagné la fonction de directeur, et demanda d'être libre de ne pas assister à la messe. En plus de son enseignement professionnel, Bollinger commença à donner des conférences ouvertes au public sur les questions théologiques qu'il basait sur les Loci Communes de Melanchthon. Bollinger initia également une série de cours dans lesquels il commentait systématiquement les Écritures. C'est ainsi qu'en 6 ans d'activité à Cappel, il commenta 21 des 27 livres du Nouveau Testament. Cet enseignement biblique exerça une influence profonde, non seulement sur la vie religieuse du monastère, mais aussi sur les habitants de la ville. Ceci provoqua la colère des catholiques fervents du canton de Zoug, quelques kilomètres de distance. Ses concitoyens se tournèrent de plus en plus nombreux vers l'Évangile, dans un mouvement de vraie repentance, s'attachant à l'enseignement de ce que Bollinger appelait déjà la vieille foi. C'est à cette époque qu'un lien étroit d'amitié et de confiance mutuelle s'établit entre Bollinger et Zwingli. Ceci malgré leurs différences d'âge, Zwingli avait 20 ans de plus que son jeune ami, et de caractère, Bollinger était aussi décidé, prudent, maître de lui et pacifique, que Zwingli était brillant, impulsif, impétueux et parfois violent. En 1528, le synode de Zurich l'appela au ministère de prédicateur et de pasteur à Cappel. Il devint plus tard pasteur de sa ville natale de Bremgarten, où il remplaça non seulement son père, mais eut la grande joie et le privilège de voir la conversion de ses parents ainsi que la légitimation de leur mariage. Pendant les années qui précédèrent la bataille fatidique de Cappel, le développement de la réforme dans les territoires de la Confédération helvétique semblait ne connaître aucune borne. Zwingli était certain du caractère irrésistible de ce mouvement venant de Dieu, et en vint à la conviction de la légitimité de l'utilisation de la force pour imposer la réforme aux 4 cantons récalcitrants de la Suisse centrale. Ce n'est pas ici l'endroit de décrire les événements qui menèrent à la défaite désastreuse de Zurich lors de la bataille de Cappel le 11 octobre 1531, mais notons simplement que la Confédération était constituée d'une alliance entre 13 cantons, certains petits, d'autres plus conséquents. Le souvenir de l'histoire passée, de la volonté d'expansion agressive du canton de Zurich, ainsi que les ambitions démesurées de Zwingli en faveur d'une nouvelle confédération qui devrait être constituée de tous les États protestants des régions alémaniques du sud de l'Empire, conduisit au renforcement de l'opposition des confédérés aux ambitions zurichoises d'imposer la foi réformée par la force à tous les cantons, en particulier les cantons de Suisse centrale, était totalement récalcitrant à tout changement religieux. La défaite catastrophique de l'armée zurichoise par les forces militaires des cantons de la Suisse centrale, rendue plus efficace par leur maintien d'un mercenariat si violemment combattu par Zwingli, mit fin à l'expansion de l'influence de Zurich et par là de celle de la réforme en Suisse orientale. Zwingli fut lui-même tué dans la bataille de Cappel. Son cadavre, calé contre un arbre, fut soumis à un procès burlesque. Écartelé comme traître, brûlé comme hérétique, comme les restes d'un hérétique endurci, et ses cendres jetées aux quatre vents. Zurich se trouvait sans défense, sans armée, et avec un gouvernement largement décapité. C'est à ce moment fatidique que Bollinger, âgé alors de 27 ans, reçut l'appel des 3 églises réformées les plus importantes de la Confédération, de Bâle, où Oecklenpade venait de mourir, de Berne, qui cherchait à renouveler sa direction ecclésiastique, et de Zurich, qui avait perdu son chef spirituel historique. La défaite complète du parti réformé agressif à Zurich avait conduit à un commencement de révolte de la part de la population rurale, car les campagnes zurichoises demeuraient encore largement catholiques. Ceci mena à la formulation par ce parti des articles de Meilen, qui exigeaient, parmi d'autres réclamations politiques et économiques, que les autorités zurichoises mettent un frein à la prédication politiquement orientée qui, à leurs yeux, avait caractérisé les réformateurs zwingliens. Ce qu'on demandait en fait était que la prédication soit systématiquement dissociée de toute considération politique. Mais la question véritable était celle de la liberté des pasteurs de prêcher sans entrave toute la parole de Dieu. Le conseil de Dieu tout entier. Après la défaite de Kappel, les prédicateurs de l'église de Zurich devaient-ils se retirer dans un genre de christianisme piétiste ou demeureraient-ils libres de prêcher tout le conseil de Dieu, l'évangile de la libre grâce de Dieu et son application complète à tous les aspects de la vie du chrétien? Le quatrième article de Meilen, formulé le 28 novembre 1531, était rédigé en partie comme suit. Honoré Seigneur, que le clergé, comme nous venons de le dire, n'entreprenne pas de se mêler des questions publiques, que ce soit en ville ou à la campagne, dans le conseil ou ailleurs, affaire qu'il devrait vous laisser, nos seigneurs, traiter. Zwingli avait dépassé les bornes, distinguant l'Église de l'État, et ses desseins extravagants conduisirent à la catastrophe nationale. Mais les exigences du quatrième article de Meilen attaquaient le caractère plénier de la prédication chrétienne, tel que le comprenaient les réformateurs suisses. La prédication de la parole de Dieu ne doit pas être liée. Elle doit être libre de s'adresser à toute question, tant de vie que de foi. Ceci impliquait évidemment l'exercice de la fonction prophétique du pasteur, tant pour la société que par rapport aux autorités publiques. Le 9 décembre 1531, après avoir prêché un premier sermon retentissant dans la Großmünster, Heinrich Bullinger fut élu à l'âge de 27 ans, antistes, c'est-à-dire au poste de premier pasteur de l'église de Zurich. En conséquence des restrictions que le quatrième article de Meilen imposait à la liberté du ministère, Bullinger exigea un délai avant de confirmer son acceptation aux autorités zurichoises. Il donnerait alors sa réponse, non en son seul nom, mais comme l'expression unanime du clergé du canton, car il ne pouvait pas envisager de prendre une pareille décision hors de la communion des pasteurs. Comme Bruce Gordon le montre clairement, c'est le meilleur spécialiste de ces questions, Bruce Gordon, comme il le montre clairement, les restrictions imposées à la libre prédication de la parole de Dieu étaient totalement inacceptables pour la vision qu'avaient les réformateurs helvétiques de l'autorité souveraine que la prédication de la parole de Dieu devait exercer sur tous les aspects de la réalité. Gordon écrit, « Cet article se réduisait à une attaque directe sur la compréhension de Zwingli quant à la charge de la prédication. Bullinger défendit le fondement biblique de l'autorité que détenaient les pasteurs de prêcher sur des questions politiques et démontra que les pasteurs zurichois, en réclamant de pouvoir prêcher une parole divine qui n'était pas liée, défendaient une tradition qui avait passé des prophètes de l'Ancien Testament aux apôtres du Nouveau, pour aboutir enfin aux enseignants fidèles de l'Église de Dieu de tous les temps. » Et Gordon d'ajouter, « Cependant, Bullinger était lui-même bien conscient des dangers que contenait sa réponse, et il proposa au Conseil un modus vivendi. » On voit d'une part l'intransigeance doctrinale de Bullinger, d'autre part sa prudence humaine, ecclésiale, politique. Un modus vivendi, un accord qui prit en considération les soucis des deux parties. Dans sa pétition au Conseil, il inclut le projet d'un serment d'entrée en fonction pour le clergé contenant deux points essentiels. Premièrement, les pasteurs acceptaient la tenue de synodes bisannuels dans lesquels les questions politiques pourraient être soulevées et discutées. Ce synode examinerait en retour le contenu des prédications données dans la ville de Zurich et dans ses territoires. Deuxièmement, en contrepartie de leur acceptation d'avoir à se soumettre à une telle institution disciplinaire, les pasteurs étaient autorisés à prêcher la parole de Dieu conformément à ce qu'exigeait leur charge. Fin de citation. Il ne peut y avoir de doute sur le caractère de cette plénitude du conseil de Dieu qui, pour Bullinger, constituait le but et la finalité que devait atteindre l'Église, et plus particulièrement ses ministres dans son service de la communauté. Ici encore, Bruce Gordon exprime très clairement le caractère véritablement complet de la foi biblique renouvelée telle qu'elle était proclamée et appliquée par Bullinger au travers de la prédication de la parole de Dieu et de la discipline de l'Église exercée par le synode. Je le cite encore. Le but de la réforme était de produire une conversion, Bekehrung, de la communauté. L'État chrétien doit être gouverné selon l'Écriture, ceci comportant la pureté des mœurs, des lois pieuses et des institutions fondées sur la parole de Dieu. Les ordonnances proposées par Bullinger et ses collègues formèrent la base de la relation entre les autorités politiques et ecclésiastiques pendant les 44 années où Bullinger servit l'église de Zurich comme son antithèse et pour bien des décennies encore. La suite de sa carrière à Zurich peut être considérée comme la mise en pratique progressive de ses principes ecclésiastiques. Contrairement à Calvin, un étranger à Genève, et qui connut une longue lutte, d'abord avec ses collègues, puis avec les membres de l'Église, et enfin avec les conseils de la ville, Bullinger, un natif de la région, obtint d'emblée la victoire complète dont il avait besoin pour l'accomplissement de son ministère comme antithèse. Ses 44 années comme premier pasteur de l'église de Zurich furent marquées par l'épanouissement de l'œuvre de la réforme à Zurich, dans le travail du synode, dans la formation des pasteurs et surtout dans la prédication de la parole de Dieu qui, par l'action du Saint-Esprit, recréait l'ordre voulu par Dieu dans l'église, dans la société et dans l'État lui-même. Cette œuvre, au travers de l'extraordinaire développement de la réforme, déborda sur toute l'Europe au moyen, avant tout, de l'immense correspondance de Bullinger et de ses écrits en nombre. Nous pouvons signaler, parmi bien d'autres, quelques-uns des événements majeurs marquant les accomplissements littéraires de Bullinger. La publication en 1449-51 de ses Décades, son œuvre théologique la plus complète. L'accord avec Calvin sur la Sainte Cène, le célèbre Consensus Tigurinus de 1549, la seconde confession helvétique, 1561-1566. Mais de tels travaux n'entravèrent en aucune manière l'accomplissement de ses devoirs familiaux. Il était un père attentif et responsable, un excellent mari, et sa maison était l'exemple même de l'hospitalité chrétienne. Sa préoccupation du bien des églises, sa lutte pour la préservation et l'avancement de cette ancienne foi que le travail pieux de la réforme avait rendue à l'Église était évidente, même au moment où on voyait ses forces physiques disparaître. Il écrivait à Théodore de Bèze le 16 juin 1575 sur les dangers menaçant l'Église en Allemagne. « Exhorte les braves à préférer à la guerre la paix, même médiocre et insatisfaisante. Je te supplie de n'être point avide de guerre et de sang, et de réfléchir à ce que représenterait un nouveau conflit. Il en est qui veulent la vengeance et rien d'autre, sans songer à pratiquer l'Évangile et à sauver les églises. Ce n'est ni ton devoir, ni le mien d'emboucher la trompette, mais bien plutôt de prêcher la paix selon le mandat du Seigneur. » Bullinger avait rédigé le 2 août son testament. Il demandait aux magistrats de tout faire pour maintenir l'unité confédérale, d'exercer attentivement la discipline des mœurs, de pratiquer l'équité et la charité. Il quitta tranquillement ce monde pour un royaume meilleur le 17 septembre 1575, répétant doucement le Notre Père ainsi que des versets des psaumes. Ainsi se termina par une fin paisible un ministère grandement béni et utilisé par Dieu pour la croissance de son royaume, et ceci à la plus grande gloire de son saint nom. Alors, comme vous le voyez, je passe à côté d'un aspect très important de son ministère, qui est son enseignement sur le rôle du magistrat. Ça, vous verrez quand vous verrez l'édition publiée de ce texte. Mais je passerai tout de suite à un autre point. L'importance de l'histoire et de la chronologie dans la théologie de Bullinger. La vision du rôle religieux du magistrat dans la vie de la communauté implique l'actualité de la valeur normative aux yeux de Bullinger de l'Ancien Testament. Ceci nous conduit à examiner un autre aspect du caractère complet de sa théologie, la conception qu'a Bullinger de l'unité de l'histoire et celle de l'expression dans le temps de l'action providentielle de Dieu. La citation suivante, tirée de l'étude remarquable du théologien réformé portoricain sur la théologie de l'histoire chez Bullinger, nous servira d'introduction aux remarques que nous allons développer sur ce thème. Je cite ce remarquable théologien réformé portoricain, Arquila, García Arquila. L'œuvre de Bullinger est particulièrement pertinente pour une société technologique et sécularisée, qui a perdu tout sens de la tradition. Le génie de Bullinger est précisément d'avoir su explorer comment la foi, telle qu'elle est transmise par la tradition, prend un sens personnel comme la libre acceptation d'un pardon des péchés conduisant à une vie nouvelle. L'œuvre immense ainsi suscitée trouve sa justification dans la nature complexe d'un travail qui consiste à explorer l'ensemble des principes ecclésiastiques et bibliques gouvernant l'histoire pour ensuite les articuler aux questions théologiques suscitées par la réforme, tout ceci sans devenir simpliste. Fin de citation. Engageons-nous tout de suite dans ce programme ambitieux. Un des problèmes apologétiques essentiels de la réforme du XVIe siècle fut celui de contrer l'affirmation catholique romaine de la nouveauté des doctrines évangéliques prêchées par les réformateurs. La réponse de Bullinger à ce dilemme, réponse qui coïncidait avec une de ses positions théologiques fondamentales, était d'affirmer que quoi que puissent dire les partisans de Rome au sujet de cette nouvelle doctrine, elle n'en demeurait pas moins la vieille foi. En fait, aussi ancienne que le proto-évangile de Genèse 3,15. Car pour Bullinger, le commencement de la foi chrétienne se plaçait non à la venue de Jésus-Christ en chair, ou lors de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, mais avec l'inauguration par Dieu d'une alliance de rédemption avec Adam immédiatement après la chute. Dans Der alte Glaube, l'ancienne foi, Bullinger consacre un effort considérable à démontrer que tout l'évangile est déjà dans Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, il parle au serpent, c'est-à-dire littéralement semence, et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Edward Dowie, dans son essai capital sur Heinrich Bullinger comme théologien, décrit l'ampleur que prend l'interprétation de ce texte par le réformateur. Bullinger extrait de ce texte quasiment tout le symbole des apôtres, ainsi que la justification par la foi, et aussi la première proclamation de l'Évangile. Examinons maintenant, sous la conduite experte d'Aurelio Arquila, l'usage que fait Bullinger de ce texte. La prémisse biblique fondamentale de Bullinger est qu'il y a toujours eu un seul chemin pour effectuer la réconciliation des hommes avec Dieu. Ce chemin unique passe par l'œuvre médiatrice du salut, accomplie parfaitement par l'incarnation, la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu de toute éternité, est vrai homme depuis sa conception dans le temps, dans le sein de la Vierge Marie. Bullinger applique alors ce salut unique avec le plus grand soin à toute la révélation biblique. Il y trouve, comme le montre Arquila, dans ce texte, la naissance virginale, une preuve de la permanence de la promesse dans la semence, la louange même de Marie. Et je cite ici, en conséquence, ce texte œuvre aussi à la louange de la mère du Seigneur, en ce que dit le Seigneur, je mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire le serpent et la femme. Car cela exprime l'absence de ressemblance entre les deux natures, leurs natures respectives. Le diable est orgueilleux, rusé, mauvais, faux et menteur. La mère du Christ, par contraste, est humble, simple, vertueuse, vraie, droite, chaste et pure. Fin de citation. Car ici, ce qui est d'une importance capitale est que Bullinger tire de ce texte le cœur même de l'Évangile. L'alliance de la rédemption elle-même, le dogme central de la justification par la foi seule, ce simple fait rend caduque la thèse de Wayne Baker, selon laquelle Bullinger aurait défendu une autre tradition réformée que celle de Genève, en fait celle d'une alliance bilatérale entre Dieu et les hommes, alliance dans laquelle les œuvres humaines auraient joué un certain rôle. Dans l'œuvre de la rédemption dépend de la seule grâce de Dieu. Laissons Bullinger parler pour lui-même. Nous citons ici encore la vieille foi. Pour conclure, le Seigneur dit qu'il allait établir une inimitié entre le serpent et la semence de la femme. Il est clair que le diable et ses cohortes et actions s'opposent au Christ et ses compagnons et ses œuvres. Quelle que soit l'énergie avec laquelle le serpent cherchera à se défendre, il sera écrasé par le Christ et ceux qui mettent leur foi en lui. À ce sujet, l'apôtre Paul a prononcé des paroles réconfortantes au chapitre 16 des Romains. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Verset 20. Ce texte, Genèse 3:15, définit aussi brièvement le devoir de ceux qui croient au Christ, car ceux qui disent « Est-ce suffisant ? Et cela satisfera-t-il à tout si je reconnais que je suis pécheur et ne peux être sauvé qu'à travers la semence bénie ?» Il est ici répondu de manière à ce qu'on puisse bien le comprendre que ceux qui placent leur confiance dans la semence bénie adoptent par cet acte de foi les voies de la semence et détestent les voies du serpent, c'est-à-dire celle du péché, et qu'ils haïssent les voies du serpent, c'est-à-dire le péché. En plus, dans toute leur vie, ils lutteront, ceci en tout temps et continuellement, avec le monde et le diable, combattant en eux-mêmes, en toute vérité, pour accomplir la volonté de Dieu. Fin de citation de Bullinger. Archila commente ce passage ainsi. C'est ici un passage capital. Car il indique que la première annonce de la promesse du salut de Dieu en Christ, l'alliance à la fois une et éternelle, est faite non en fonction des œuvres de la loi, mais comme la réponse de la foi seule en Christ, c'est la condition humaine de l'alliance qui unit la sotériologie de l'Ancien à celle du Nouveau Testament, Israël à l'Église. Depuis la chute, il n'existe aucun moyen de salut autre que celui de la foi en la promesse de Dieu en Jésus-Christ. Fin de citation. Il s'ensuit pour Bullinger que l'histoire du monde n'est rien d'autre que les annales du conflit permanent entre les descendants de la semence véritable de Dieu et la progéniture du diable. Archila commente, en accord avec cette théologie augustinienne, Caïn et Abel deviennent les représentants des deux peuples dont les différences constitueront la trame même de l'histoire. La lignée spirituelle, représentée par ces deux généalogies, celle de la piété et de l'iniquité, peut être tracée à travers toute l'histoire biblique. Elle culmine d'une part dans l'incarnation de la semence véritable dans la personne du Seigneur Jésus-Christ et de l'autre dans son meurtre aux mains de la semence de Caïn, l'Israël apostat, devenu des Édomites spirituels, manifestation historique du mystère d'iniquité. La place centrale que Bullinger accorde à la continuité historique de la vraie foi qui va d'Adam à Jésus-Christ explique son intérêt passionné pour la chronologie biblique et sa conviction inébranlable que sa précision inspirée concorde avec l'infaillibilité des Écritures. Cet intérêt pour l'histoire et pour la chronologie biblique en particulier était en fait universel dans l'ancienne tradition théologique, c'est-à-dire jusqu'au milieu du XVIIe siècle. La fidélité chronologique et l'exactitude historique de la Bible étaient d'une importance capitale pour bien saisir le sens de ce conflit constant entre la semence de la femme et la semence du diable. Un bref extrait des Décades de Bullinger nous montrera l'intensité de son intérêt pour ces questions chronologiques et historiques, intérêt qui devrait aussi être le nôtre. Je cite « Noé vécut dans ce monde 950 ans. Lorsque se produisit le déluge, il avait déjà vécu 600 ans. En conséquence, il avait vu et entendu tous les saints pères du premier âge avant le déluge, à l'exception de Trois, Adam, Seth et Enoch. Et il vécut durant de nombreuses années avec les autres qui avaient vu et entendu ces trois, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer les choses transmises par Adam. Noé mourut, ce qui est une constatation étonnante, mais vraie, quand Abraham avait 59 ans. » Fin de citation. Un tel respect pour la véracité historique et chronologique de la Bible nous change agréablement de la capitulation trop courante des spécialistes de l'Ancien Testament, chrétiens ou non, face aux hypothèses fragiles de l'histoire profane du Moyen-Orient ancien. En contraste avec la tradition historiographique biblique, dont un exemple remarquable se trouve aussi dans l'œuvre chronologique de Bullinger, les historiens chrétiens et juifs de la Bible ont, depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, pour la plupart, trop facilement vendu leur droit d'aînesse chronologique pour un plat de potage académique. La chronologie biblique, telle qu'elle était comprise par de remarquables savants comme Bullinger, Usha, l'Irlandais Usha, et Bossuet, s'est évanoui des milieux chrétiens en tant que discipline historique sérieuse avec la venue des Lumières du XVIIIe siècle. Il fut en fait une des premières victimes de l'attaque lancée par le rationalisme moderne contre la Bible, en tant que document historique fiable. Car, faut-il le rappeler, la Bible n'est pas uniquement la révélation par un Dieu trinitaire parfaitement digne de foi de ses desseins de rédemption vers les hommes. Elle est aussi nécessairement une révélation divine, fidèle, car Dieu ne saurait mentir du déroulement de l'histoire ancienne des hommes. La vision de l'histoire développée par l'Esprit des Lumières a affirmé de la manière la plus dogmatique la nécessaire autonomie totale de cette discipline des superstitions contenues dans les Saintes Écritures. D'un point de vue historiographique, la science historique qui prévaut dans la communauté académique chrétienne s'est dans une grande mesure tout simplement écrasée devant le mensonge flagrant de cette critique historique. Il est grand temps que nous nous libérions d'un tel esclavage intellectuel aucunement nécessaire. Les succès remportés par les efforts entrepris actuellement en vue de rectifier la chronologie officiellement acceptée du Moyen-Orient ancien démontrent ce à quoi nous aurions dû en premier lieu nous attendre, la fiabilité historique et chronologique parfaite de la Bible. Ceci n'est que naturel, qu'un livre à la fois inspiré et infaillible nous donne des repères chronologiques absolus, si absent de la confusion des chronologies contradictoires des nations environnant Israël. Tout cela nous incite à revenir à la norme biblique d'une historiographie fondée sur une chronologie objective, méthode qui était pratiquée par Bullinger et ses pairs, discipline historique fiable car fondée sur la révélation vraie du Dieu qui est le maître de l'histoire. Il est frappant de remarquer que l'intérêt de Bullinger pour l'histoire ne se bornait pas à ce que nous appellerions aujourd'hui l'histoire de l'Église. Pour lui, comme pour les auteurs bibliques, toute l'histoire, tant profane que religieuse, est placée sous l'autorité souveraine de la providence divine. Par ailleurs, le sens qu'elle comporte peut être perçu, dans la mesure où cela est donné à l'homme, par le discernement intelligent du chrétien, perspicacité qui se développe dans la mesure où il se soumet à la parole de Dieu. En plus, il était clair pour Bullinger que l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes n'était aucunement limitée à la seule histoire d'Israël, ni au temps biblique. Le conflit entre les deux semences se prolonge dans la vie de toutes les nations par la proclamation universelle de la bonne nouvelle. En plus, pour Bullinger, l'étude honnête de l'histoire à la lumière de l'Alliance, telle par exemple celle de cette confédération helvétique pour laquelle il avait tant d'admiration et une si grande affection, pouvait faire ressortir le sens véridique, c'est-à-dire dans une perspective divine, providentielle, de ce que nous nommons dans notre incroyance histoire profane ou sécularisée. Comme si quoi que ce soit pouvait échapper au sens donné par le Créateur. À cette providence divine qui conduit souverainement toutes choses. Pour Bullinger, l'étude honnête et soigneuse des temps post-bibliques permettait de discerner dans le déroulement de l'histoire le fonctionnement des principes de l'Alliance. Il était également très attentif à la nécessité de tendre vers une réelle objectivité dans l'étude du passé, c'est-à-dire de cultiver une grande rigueur dans l'utilisation des sources. Ceci par l'étude de tous les documents disponibles, ceux de nos adversaires autant que les nôtres propres. Il s'agissait chez Bullinger d'une vue réellement complète de la réalité. Toute chose était ici soumise à la vision du monde donnée à son intelligence éclairée par la lumière de la foi chrétienne. Pour Bullinger, toute pensée, et pas uniquement les pensées religieuses ou théologiques, devait être amenée captive à l'obéissance du Christ. En d'autres mots, tous les aspects de cette réalité créée et déchue appartenaient à Dieu qui leur donnait leur sens. Mais nous laisserons à Aurelio Archila le soin de conclure cette partie de notre exposé. Je cite. Ainsi, une compréhension de la foi chrétienne comme histoire du salut, commençant par Genèse 3.15 et présenté comme une doctrine des deux cités, conduit Bullinger à éclairer tout le matériel biblique. Comme Israël et l'Église, à cause de l'unité de l'Alliance, sont un, ce même schéma pourra servir à Bullinger dans l'explication qu'il donnera de l'histoire humaine, car depuis la fin des récits bibliques jusqu'au présent le plus actuel, qu'il perçoit comme un moment eschatologique. Et il continue. C'est ainsi que, dans la vieille foi, nous trouvons une compréhension narrative du salut comme n'étant autre chose que le déploiement dans l'histoire humaine de la promesse de l'Alliance de Dieu qui s'est engagée à réparer les dommages provoqués par la chute, incorporant à sa théologie historique des idées provenant de l'héritage augustinien de l'Église. Il présente la compréhension que les réformateurs avaient du salut par la grâce, seul au moyen de la foi, comme un drame qui s'avance à travers l'histoire et lui donne un sens, son sens. Au moyen de ce cadre, il cherche à discerner les voies de Dieu dans la crise présente. Malgré ses conceptions conventionnelles nombreuses, ou peut-être à cause d'elles, Bullinger retrouve une lecture dynamique et diachronique de la Sainte Écriture, lecture qui n'était pas terminée lorsque le dernier livre de la Bible fut écrit, mais qui continuerait à être écrite en de grandes lettres par le doigt même de Dieu dans les affaires des hommes, même à l'époque de l'antistèse, et nous pourrons ajouter, même à notre époque à nous, et cela jusqu'au jour où le Seigneur y mettra lui-même fin par sa seconde infraction dans l'histoire humaine. Ainsi pour M. Archila. Maintenant, j'ai une partie que je ne traiterai pas, qui traite de la prédestination, de la discussion sur la prédestination entre Calvin et Bullinger. Et je viendrai à ma conclusion. Une foi véritablement complète, biblique, orthodoxe et catholique. Une foi véritablement complète, biblique, orthodoxe et catholique. Une bonne partie de ce qui a été écrit sur Bullinger suit la notion si courante au XIXe siècle de ce en quoi consistait la théologie systématique. L'organisation de tout le matériel biblique autour de un ou de deux principes doctrinaux. L'identification arbitraire de la théologie de Calvin autour de la seule prédestination est un exemple de cette méthode erronée. Un autre exemple, applicable ici à Bullinger, est l'idée de Wayne Baker, selon laquelle une forme d'alliance bilatérale constitue le motif fondamental de sa théologie. Sous l'influence bienfaisante de l'article exemplaire de Edward Dowie, Heinrich Bullinger as Theologian, la recherche plus récente en est venue, à mon sens, à une appréciation plus exacte et plus équilibrée de la réussite théologique de Bullinger. Ce que Bullinger recherchait par son travail théologique n'était pas l'organisation abstraite, systématique, de tous les matériaux contenus dans la révélation naturelle et spéciale en un tout cohérent, articulé autour d'un ou de deux principes déterminants. On pourrait s'attendre à un tel genre de rationalisation théologique d'une mentalité post-cartésienne et positiviste, fortement tentée par une analyse de type réductionniste. Pour Bullinger, il en allait tout autrement. Ce qui était important, non absolument vital pour lui, était la proclamation de tous les éléments contenus dans la révélation de Dieu, rassemblés d'une manière à la fois cohérente, complète, équilibrée et appropriée à la situation à laquelle il s'adressait. Cette tâche fut accomplie par lui de manière diverse, dans des œuvres différentes, lors de la présentation des matériaux théologiques dépendant du but choisi et des besoins immédiats de l'Église. Il est ici tout à fait approprié de citer quelques-unes des conclusions de Edward Dowie. Parlant des œuvres plus systématiques de Bullinger, il écrit au sujet des décades. Les décades de Bullinger, œuvre majeure classique de la Réforme, tient une position indiscutée comme son ouvrage le plus substantiel et le plus complet, rassemblant les thèmes de tous les livres qu'il avait jusqu'alors écrits et manifestant le but ecclésial d'être une source servant à aider les pasteurs dans la préparation de leurs sermons. Alors, ces décades furent prêchées par Bullinger, ces 50 sermons. Ce n'est pas une institution chrétienne un peu abstraite comme celle de Calvin. C'est des sermons prêchés à des pasteurs. Et en plus, il faut dire aussi qu'en 1578, la traduction anglaise a été adoptée par l'archevêque de Canterbury comme lecture obligatoire pour tous les prêtres sous son autorité. Et ils devaient donner des comptes rendus de leur lecture à l'évêque tous les mois. Et c'est de là, en grande partie, que vient le puritanisme. En grande partie. Mais ça, on ne le dit plus jamais. On ne parle jamais, très peu, de Bullinger comme étant le père du puritanisme anglais. On pourrait en dire beaucoup plus, mais je ne le ferai pas maintenant. La première partie des décades s'ouvre avec 12 documents provenant de l'Église ancienne. Dowie commente. Il a cité 12 textes importants, des symboles et des pères de l'Église. Le choix de ces textes manifeste l'affirmation constante de Bullinger, d'être de la foi ancienne et orthodoxe. Ces documents sont essentiels aux décades et aucunement une simple préface. Ceci participe à la préoccupation incessante de Bullinger de montrer que la foi réformée est celle de la première Église, celle qui passe par Nicée et Chalcédoine, et en plus que les premiers pères de l'Église se référaient tous à l'Écriture. Dowie, de la Seconde Confession helvétique, écrit « Cet ouvrage de Bullinger est son effort formel capital de parler au nom de l'Église catholique orthodoxe et réformée. Le caractère général de la confession exprime bien les traits dominants de la pensée de Bullinger que nous avons déjà observés dans d'autres écrits. Une théologie de laquelle est absente toute forme de spéculation, mais qui est orientée vers la vie pratique actuelle des croyants dans l'Église et devant Dieu, ainsi que d'être située dans le contexte de la vie du monde, c'est-à-dire de son histoire. Une conscience ecclésiale très large, au travers de laquelle agit toujours une réponse symbolique et confessionnelle, réponse qui englobe les grandes controverses. Le regroupement séparé, comme cela avait été le cas dans les décades des matériaux de provenance patristique et des premiers symboles, des thèmes sotériologiques propres à la réforme, le tout fondé sur et fondement rassemblé par celle qui était pour Bullinger la plus catholique de toutes les doctrines, la doctrine de l'Écriture seule comme source de la foi chrétienne. Vous comprendrez sans doute mieux maintenant pourquoi ma première suggestion, comme titre de cet exposé, suggestion qui a été écartée, fut Heinrich Bullinger et la catholicité, c'est-à-dire la plénitude entière de la foi. Est-il surprenant, vu le chemin que nous venons de parcourir, car Killa intitule le cinquième chapitre de son livre « L'orthodoxie et la catholicité des églises évangéliques ». Ne faisant en fait ici autre chose que répercuter le titre d'un des traités de Bullinger publié en 1562, les églises évangéliques ne sont ni hérétiques ni schismatiques, plutôt clairement des églises orthodoxes et catholiques de Jésus-Christ. Bullinger fonde sa défense de l'église de la Réforme comme constituant l'église orthodoxe et catholique véritable en premier sur l'accueil qu'on y accorde au canon biblique. Je cite, « L'église du Christ, pour être distinguée de l'église papiste, est appelée évangélique, reconnaît et reçoit les livres canoniques des deux testaments, tels qu'ils sont sortis de la bouche de Dieu. Il ne renie ni ne rejette aucun de ces livres, mais les reçoit ensemble comme un tout. Il ne discute pas non plus de manière sophiste sur le mode de réception de ces livres, sur ceux qui seraient autorisés à les reconnaître ou à les rejeter, car n'est-il pas bien plus probable que l'Église n'ait reçu son autorité de l'Écriture que le contraire. Pour Bullinger, le canon détient une autorité première, car il est le témoin sûr de l'Église apostolique. Et je cite encore Bullinger, « Car lorsque les apôtres et les disciples du Christ étaient encore en vie, les différents évangiles vinrent à jour dans l'Église. Ce sont eux qui attestent de ce qui est authentique et de ce qui est falsifié. » Et Archila, qui nous a aidés dans notre conférence, commente, « Bullinger, ainsi, n'oppose aucunement le saint canon des livres reçus au témoignage de l'Église vivante. Plutôt, il contrebalance une tradition ou un témoignage digne de foi à une tradition fausse. Il ne coupe pas l'Église patristique de l'Église apostolique. Bien plutôt, il reçoit la tradition patristique pour autant qu'elle soit conforme au témoignage de l'Église apostolique contenu dans le canon. L'Église évangélique est en communion avec et dans la succession véritable de l'Église catholique de toutes les époques qui reçoit ce témoignage. Pour Bullinger, il n'est pas question d'attaquer la tradition de l'Église. Bien au contraire, il cherche à affirmer la vraie tradition de l'Église catholique qui consiste en la fidélité au témoignage des Écritures. Comme Archila l'indique, pour Bullinger, ce canon complet qui consiste en lui-même, qui subsiste en lui-même, n'est pas une surface plane, mais il implique une herméneutique donnée. Avec la deuxième épître de Pierre, il affirme que ces mots inspirés ne proviennent de la volonté d'êtres humains, car ce n'est nullement par la volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, de Pierre 1, 20 à 21. Mais en citant l'épître aux Romains 12, 6, il déclarait « La prophétie doit être en accord avec la foi ». Ainsi, les églises évangéliques, je cite Bullinger, ne reçoivent ni ne reconnaissent n'importe quelle interprétation de l'Écriture, mais uniquement le sens exigé par l'Écriture elle-même, sens qui vient de l'Esprit de Dieu par lequel l'Écriture a été inspirée. Ce sens est en accord avec toute l'Écriture et en harmonie avec la règle de la foi et de l'amour. Fin de citation de Bullinger. Une telle attitude envers la tradition n'implique ainsi d'aucune manière le rejet de l'héritage d'interprétation de l'Église, cela dans la mesure où Cet héritage se conforme au sens divinement donné de l'écriture elle-même. Bullinger écrit encore, mais ici, nous ne répudions ni ne considérons avec mépris les argumentations et les expositions scripturaires des pères bienheureux. Les antistèses et les docteurs de l'Église ancienne, tels par exemple Irénée, Origène, Chrysostome, Ambroise, Jérôme, Augustin et d'autres semblables, pour autant que leurs expositions et leurs conclusions ne se séparent en rien des règles apostoliques. Fin de citation. Sur le rétablissement par les réformateurs du XVIe siècle des anciennes formules chrétiennes de catholicité et d'orthodoxie, déformées par Rome, Paul D. L. Avis, dans son ouvrage sur l'Église des réformateurs, a ceci à dire. La conception de l'Église qui est fondamentale à la pensée de les réformateurs, ceci comporte aussi bien les anglicans et Bullinger, notamment que seul l'Évangile est de l'essai, c'est-à-dire de l'être même de l'Église, avait de profondes implications pour ce qui concerne la doctrine de la succession et avec elle de la notion de la catholicité, une des quatre marques symboliques de l'Église. Dans la théologie traditionnelle, celle de l'Église catholique romaine, la catholicité de l'Église était garantie par la succession apostolique, moyen par laquelle la grâce de l'ordre sacré, la prêtrise et l'épiscopat, était transmise et la grâce sacramentelle impartie par la puissance des ordres, c'est-à-dire le sacrement romain de l'ordre. En faisant de l'Évangile seul la puissance à l'œuvre dans l'Église par l'action du Saint-Esprit, les réformateurs se dispensèrent du besoin de recourir à la notion de la succession apostolique, la remplaçant par celle de la succession de la vérité. De même, l'Évangile de la vérité était considéré comme suffisant pour assurer la catholicité de l'Église. Fin de citation. Ainsi, l'apostolicité de l'Église, si étroitement unie à sa catholicité, n'était plus assurée par la succession humaine quasi matérielle, succession marquée par l'imposition des mains accordées aux futurs prêtres par un évêque en continuité de succession avec le pontife suprême de Rome. Ce dernier s'affirmait être en sa personne même le garant de la succession des apôtres. L'apostolicité de l'Église dans la vision des réformateurs était liée uniquement à sa conformité à la doctrine et à la pratique des apôtres telle qu'elle nous est révélée dans les Écritures reçues par l'Église comme canonique et qui constituait par l'action du Saint-Esprit le fondement unique. Dans le contexte d'une pareille perspective ecclésiologique, nous pouvons comprendre pourquoi le théologien confessionnellement réformé Pierre Courtial, doyen honoraire de la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence, peut écrire, je le cite, « Le mot grec « catholicos » vient en effet de la juxtaposition de deux mots « kat » égale « selon » et « olon » égale « le tout ». Si réduit à son sens quantitatif, le mot « catholique » signifie soit selon le tout spatial, universel, soit selon le tout temporel, continuel, perpétuel, permanent, « je crois à l'Église catholique » signifie alors « soit je crois à l'universalité de l'Église, soit je crois à la continuité, à la perpétuité, à la permanence de l'Église. » Mais là n'est ni le plus important, ni l'essentiel. Au sens qualitatif, sens qui est le sens principal et prioritaire, entraînant le sens quantitatif, spatial ou temporel, ce catholique signifie « selon le tout de la révélation » normative qui est pour l'Église la Sainte Écriture. Et Courtial ajoute, être catholique, c'est respecter le tout inséparable du texte de l'Écriture dans l'adoration de celui qui en est l'auteur premier et souverain. C'est refuser de choisir dans l'Écriture. C'est refuser l'hérésie, en grec aérésis, le choix du verbe aéritizo, à l'aoriste, hérétia, choisir. Ainsi, le sola scriptura égale la norme pour l'Église, c'est la seule Écriture. Doit-il accompagner du tota scriptura? La norme pour l'Église, c'est l'Écriture dans sa totalité. Selon l'Écriture sainte, pas plus sola, pas moins tota. Le mot opposé au catholique est le mot hérétique, et vice-versa. Ici, Pierre Courtial se place résolument au cœur même de la réformation du XVIe siècle. Il se tient clairement dans la lignée de Heinrich Bullinger, de Jean Calvin et de Pierre Viret. Je terminerai cet exposé en citant un autre théologien des plus remarquables, mais malheureusement fort peu connu, feu le pasteur Richard Pacquier, de l'église réformée du canton de Vaud, qui, comme Pierre Viret, vient lui aussi du pays de Vaud, qui est mon lieu de résidence. En 1935, Richard Pacquier écrit ces paroles étonnantes. Avoir l'esprit de la catholicité, c'est vouloir être complet et non pas unilatéral. Vivre un christianisme intégral et non tronqué, universel et non sectaire. Être catholique, c'est affirmer Dieu tout entier, l'Écriture tout entière, l'Église tout entière, le cosmos tout entier. C'est croire au Dieu transcendant et immanent, principe et énergie, au Dieu trois et un, Père, Fils et Esprit. C'est confesser Christ, Dieu et homme, et non pas seulement le prophète ou le prêtre, l'homme ou le Dieu, le modèle moral ou l'hôte mystique de l'âme, le sauveur ou le juge. C'est reconnaître l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, celui-ci en entier, les synoptiques et Jean, Paul et Jacques. C'est être en communion avec l'Église de tous les siècles et non pas faire commencer l'histoire de l'Église à la Réformation ou au contraire arrêter la vie de l'Église à son stade médiéval. C'est être en communion avec l'Église de la terre et avec l'Église du ciel. Avec l'Église triomphante comme avec l'Église militante. C'est réaliser dans les sacrements et dans le culte l'union harmonieuse de la spiritualité et de la corporéité, de la nature et de l'esprit, de ce monde-ci et de l'autre. La catholicité, c'est l'attribut du christianisme complet, total, intégral. Sans doute, Heinrich Bullinger, l'antithèse de Zurich, aurait approuvé ces paroles équilibrées et éclatantes. Je vous remercie.